France Culture. Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Chaque pays a ses rituels politiques. Et parmi ces rituels, les soirées électorales à la télévision et à la radio. En France, les choses sont codifiées, précisément depuis des temps qui commencent à devenir anciens. Le ballet des barons ou des seconds couteaux sur les plateaux des chaînes d'information. Les petites phrases et les affrontements rituels autour du projet des uns ou du bilan des autres. À l'échelle de l'Europe, ce type d'exercice n'est jamais évident, pour toute une série de raisons qui ne sont pas uniquement linguistiques. Il y a bien des partis européens et des fédérations de partis au Parlement européen. Depuis la première élection des eurodéputés au suffrage universel direct, c'était en 1979. Mais le plus souvent, dans ces élections, les résultats donnent lieu à des interprétations nationales et donc locales. Et c'est peut-être pour dépasser cette limite que l'atelier de création radiophonique a imaginé une soirée électorale d'un genre nouveau pour les élections européennes de 2004. Des élections particulières à plus d'un titre, puisque l'Union européenne venait de s'élargir vers l'Est et le Parlement européen s'apprêtait à accueillir plusieurs dizaines de députés issus des nouveaux pays membres.
À partir de maintenant, jusqu'à la prochaine fois.
Allô, le monde, ici Paris.
Stockholm, 13 juin, AFP, le parti conservateur principale formation de l'opposition en Finlande, est arrivé en tête des élections européennes de dimanche avec 23,7% des voix, selon les résultats définitifs publiés par le ministère de l'Intérieur.
Deux rebelles kurdes tués dans des combats au cœur de la ville de Bingöl. Diyarbakır, 13 juin, deux rebelles kurdes du Parti des travailleurs du Kurdistan, PKK, rebaptisé Kongragel, ont été tués dimanche au cours d'affrontements avec les forces de sécurité turques en plein centre-ville de Bingöl, sud-est, selon des sources sécuritaire local interrogé par l'AFP. Les rebelles ont tiré à la roquette sur un bâtiment de la garnison de gendarmerie de Bingöl, situé au cœur de la ville, sans faire de victimes. Deux d'entre eux ont été abattus dans les combats qui ont suivi cette attaque, ont précisé ses sources. Le PKK, qui lutte pour l'indépendance du sud-est anatolien, à forte population turque, a mis fin le 1er juin au cessez-le-feu qu'il avait décrété 5 ans plus tôt, après l'arrestation de son chef Abdullah Öcalan.
Demain va s'ouvrir officiellement la campagne du référendum. Je voudrais ce soir, rapidement, simplement, vous parler de la construction européenne, de ses conséquences pour notre pays. Vous dire pourquoi je vous consulte directement. et pourquoi il faut que le oui recueille une imposante majorité.
Il est très très récemment au pouvoir, c'est le cas de l'Espagne avec le Parti Socialiste et de la Grèce avec la droite. Et bien là, ces partis qui sont tout nouveaux au pouvoir national remportent les élections européennes. La tendance qui se confirme cette fois-ci, et c'est une nouveauté dans ces élections européennes, c'est la poussée des eurosceptiques. En Grande-Bretagne, par exemple, les conservateurs n'ont pas bénéficié de la perte de la défection des électeurs vis-à-vis du Parti travailliste, mais ils ont voté pour une formation qui demande carrément le retrait de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Cas identique en Suède, où c'est un petit parti, une petite liste, qui obtient également 15% des sondages.
C'est un vote un peu négatif, on a envie de dire.
Oui, et une réaction négative par rapport à l'Europe, ça veut dire qu'au Parlement européen, siégeront des députés qui combattent l'Europe en quelque sorte.
Alors on va voir peut-être déjà des premiers résultats avec vous, David Lallemand, concernant la Belgique cette fois.
Des résultats qui sont encore partiels, Anne-Michel, puisque nous sommes pour l'instant à étudier des chiffres sur environ 80-85% des votes exprimés. Vous savez que la Belgique envoie 24 eurodéputés au Parlement. Alors les premiers résultats que l'on peut vous annoncer pour l'instant sont que le CDNV-NV avait envoyé 4 députés à l'Europe, c'est-à-dire un de mieux que précédemment. Le Vlaams Blok va envoyer 3 députés dans le Parlement européen, c'est-à-dire un de mieux que précédemment. Le
VLD vivant. Ce soir, l'atelier de création radiophonique présente L'Europe à des oreilles, un programme exceptionnel en direct du studio 105 de la Maison de la Radio et en multiplex avec 7 radios européennes, par Philippe Langlois et Franck Smith.
Alors que les Européens étaient appelés jusqu'à ce dimanche 22h pour ce qui concerne les derniers bureaux de vote en Italie, en Pologne et en Slovaquie, convoqués pour le plus grand marathon électoral de leur histoire, 348 millions d'électeurs étaient invités à choisir sur 946 listes les 732 hommes et femmes qu'ils enverront pour 5 ans au Parlement européen. Alors que se mobilise le plus gros scrutin transnational jamais organisé dans le monde, mais aussi la première expression démocratique des peuples de cette nouvelle Union, élargie depuis le 1er mai à 25 États membres. L'atelier de création radiophonique prolonge cette soirée électorale sur France Culture par un voyage au son cours, en direct et à travers 7 radios européennes. La Belgique, l'Italie, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la Slovénie, la Finlande et le Portugal. Ponctué de témoignages d'artistes ou personnalités d'envergure européenne comme Peter Greenaway ou Jean-Luc Godard, c'est l'occasion pour nous ce soir d'interroger la réalité culturelle d'une Europe en devenir, certes diverse, élargie et pluraliste, mais aussi, il n'y a qu'à observer le sort fait aux campagnes électorales dans la plupart des pays, ignorées, méprisées et parfois même dédaignées.
La création.
Atelier de création radiophonique. L'Europe a des oreilles. Tempo. Par Philippe Langlois et Franck Smith.
Hello, hello. I'm not sure this is working.
Ciao, non so se può funzionare.
I just wanted to say sorry.
Volevo solo dirti che I'm really sorry. Tanto.
I know that I've let you down.
Sono
I know I said before that I would try harder this time.
So che ti ho lasciato perdere.
I'm sorry. You shouldn't take this personally.
Mi dispiace.
It's not you. It's not about
non
you.
È colpa tua.
It's me. It's my fault.
Sono io.
Don't blame yourself. Really, it's
non
me.
Devi volertene.
I don't
e
know what
au
else
to même
say.
Moment,
I'm so sorry.
Colpa mia. Sono io.
I hope you can forgive me.
What is this?
Well, en province de Liège.
Hearing that Spaniard.
Vous venez de le dire, le Parti socialiste gagne un siège. José Appart doit être content. José Appart qui menait la liste.
Au même moment,
à Liège,
en dit, Belgique, pour lui, sur la RTBF La Première, où se tenait un double scrutin régional et européen. Une émission en multiplex en liaison permanente avec les parlements wallons, bruxellois, flamands et européens, et en liaison avec les sièges des partis politiques.
Je suis évidemment très, très triste parce que pour moi aujourd'hui, vu le score de l'extrême droite en Flandre, à Bruxelles et Wallonie, je considère déjà que c'est un jour noir pour la démocratie.
Les voix écolo de 99 se sont un peu dispersées entre le FN et le Parti Socialiste. C'est ce qui vous rend triste aussi.
Oui, mais on va dire qu'on a pris les bons et que le FN a pris les mauvais. Mais si ce n'était que cela, ce serait facile. Pour moi, la population a donné un mauvais signal, s'est trompée, je crois, parce que se défouler dans l'isoloir, vouloir régler des comptes et vouloir donner la libre expression à son égoïsme, c'est dangereux pour l'équilibre démocratique.
Quelle majorité pour le Parlement wallon? Le PS renforce son groupe, évidemment, au Parlement wallon.
Le jeu est évidemment ouvert, plus pour le Parti socialiste que pour les autres partis. On va attendre les chiffres définitifs. Nous sommes à deux sièges de la majorité absolue, si les chiffres sont confirmés pour le Parlement wallon. C'est évidemment une puissance très importante et donc beaucoup de responsabilités pour le Parti socialiste.
Vous êtes toujours candidat ministre?
Oui, bien sûr.
Et si vous aviez le choix d'un ministère, toujours l'agriculture, la ruralité?
Bien sûr, c'est le secteur que je connais le mieux. Mais aucune porte n'est fermée, tout ça dépendra des discussions, des négociations et de ce que le parti attendra de moi.
Un autre résultat que vous attendez peut-être, c'est le foot. Et donc c'est France-Angleterre et pour l'instant le score est de 2-1 en faveur de la France.
Et on en est presque à la fin.
Les arrêts de jeu pour l'instant.
On va se retrouver tout de suite après une petite pause musicale.
Nous quittons Bruxelles pour Amsterdam. Nous avons rencontré il y a quelques jours un artiste d'envergure européenne, puisque citoyen britannique, il vit depuis 20 ans aux Pays-Bas. Il s'agit de Peter Greenaway, qui vient de réaliser un court-métrage quant à sa vision personnelle de l'Europe. Peter Greenaway.
Je m'intéresse à l'individualité, je m'intéresse à la subjectivité. Et je pense que toute chose qui détruit notre subjectivité, notre individualité, doit être traitée avec la plus grande méfiance. Malheureusement, le cinéma est à présent un art à peu près mort. Je pense que les grandes heures du cinéma d'auteur européen sont passés depuis longtemps. La notion d'un film européen n'existe probablement pas. C'est difficile d'imaginer l'identité de la France et de l'Italie comme existant dans une situation comme celle-ci. Et nous savons bien que l'Angleterre est simplement cet État supplémentaire associé aux États-Unis d'Amérique. J'ai souvent souhaité une plus grande diversité, une plus grande différence, plus de subjectivité, plus d'individualité en termes de cinéma ou de production de films européens. Je ne trouve plus ces choses-là. Et c'est ce qui me surprend, ce qui m'irrite et qui me cause beaucoup d'anxiété. Je suppose qu'avoir essayé de m'éloigner de l'étroitesse d'être simplement anglais est une chose positive. Mais encore une fois, je dirais qu'il faut arriver à jongler avec la possibilité de deux idées contradictoires simultanément. Il était important pour moi de me séparer de la notion d'un cinéma anglais particularisé que j'associe avec une sorte de post-néoréalisme, mais également de la culture télévisuelle que j'associe essentiellement au réalisme ou au naturalisme. Je ne pense pas que le naturalisme ou le réalisme soit possible au cinéma, et je pencherai toujours pour l'artificialisme le plus extrême. Prendre le mot « art » à l'intérieur du mot « artificiel » et défendre ça. Le cinéma que j'ai toujours admiré est essentiellement, je dirais, une combinaison du cinéma italien et du cinéma français, des années 60 et des années 70. Donc nécessairement, je vais dans cette direction-là et je pourrais être associé avec ça. On ne peut pas dire qu'une combinaison de la France et de l'Italie fasse l'Europe. Mais certainement, cela me déplace par rapport à une polarisation anglaise. Et de ça, je suis content.
Un témoignage incisif, une certaine idée de l'Europe, c'était Peter Greenaway, alors que nous sommes à présent sur la BBC 4.
Je pense encore que c'est une approche très difficile de dire je veux quitter l'Union européenne. Je pense, je ne suis pas du tout d'accord avec ça, mais quand on parle de la Constitution, je me demande pourquoi on a eu ce vote. Parce que les personnes, le peuple a dit clairement ce qu'ils veulent. Ils ne veulent pas Tony Blair. Alors, si on regarde le sud-est de l'Angleterre, qu'est-ce qu'on voit? Mais je pense que l'histoire se répète ici. Effectivement, Nigel Farage, c'est un ex-président de parti, a parlé d'avoir le double de voix cette fois-ci. Il a eu 10% en 99 et il parle de 20% pour cette année. La chose intéressante, c'est que d'autres représentants de parti confirment cette opinion. 20%, mon Dieu. Merci beaucoup. Le sud-ouest de l'Angleterre. Ce collège électoral est à 260 miles de Gloucester Side. En 1999, cette région a eu le vote pour l'Union européenne le plus fort. Oui, effectivement, on a eu beaucoup de votes des pêcheurs et des agriculteurs dans cette région, mais tous les candidats m'ont dit qu'il y a un sentiment général qu'on a essayé de limiter les eurosceptiques. On revient à Londres. Le nombre de votes pour chaque parti, c'est le suivant. Le Parti national britannique, 7700. Et l'Alliance chrétienne, 44 038.
Et au même moment,
English.
Au même moment, en Finlande, sur Radio Suomi, le journal et la météo.
Europe, est-ce que c'est une nouvelle ouverture
Je pense que la politique de l'Europe fait partie de la politique domestique parce que c'est justement là qu'on promoit les affaires des Finlandais et de la Finlande. C'est seulement un autre parlement. Ce sont les deux parlements très importants pour la Finlande. Et puis, on a besoin de gens compétents. Et je pense que les Finlandais ont su bien voter, malgré le pourcentage de vote qui est assez bas. Il semble que les affaires de l'Union Europe sont des choses assez difficiles à maîtriser. Et pour cela, peut-être les Finlandais n'ont pas tout compris, même les journalistes inclus. Par exemple, quand je regarde un peu la promotion pour les élections, alors on a l'impression qu'on n'a pas vraiment approché l'homme. Mais par exemple, nous pouvons prendre des issues comme le chômage qui est très, très important et le bien-être au travail. C'est un des nouveaux sujets parce qu'on prétend que l'Europe devrait devenir la région la plus compétente du monde. Donc là, il faut prêter beaucoup d'attention justement à la condition de travail et nous avons pour garder notre compétitivité également, de garder les gens très bien dans le travail. Anneliia Temäki a été interviewée par Timo Manninen. Il fait maintenant minuit moins 11. Nous aurons une image compréhensive dans quelques minutes. Alors, correspondante Anne Autio, est-ce que tu as cet résumé? Nous avons résumé que sur l'ordre mais il y a certains résultats qui ne sont pas encore arrivés, donc l'Union européenne ici ne veut pas donner de résultats définitifs, mais c'est ce qu'on peut dire maintenant. C'est comme avant les élections, on pouvait déjà voir que les trois grands pays, la France, Angleterre et l'Allemagne, ce sont les gouvernements qui ont perdu, et c'est surtout en Allemagne, les conservateurs qui ont perdu, en Angleterre, c'est le Labour Party qui a perdu, et que la partie indépendante anti-européenne a reçu presque 20%, ce qui était un choc. Mais pour ce qui concerne sur le plan général, ça semble que la composition en Parlement européen ne change pas beaucoup parce que ça annule les extrémités dans l'autre côté de l'autre. Les libéraux sont déjà en troisième position. On ne sait pas ce qu'on peut dire. C'est ce que ça veut dire pour le projet de Paavo Lipponen de Suomi.
Le montage de vous-même. Vous êtes vous-même. Vous êtes le montage de vous-même. Vous ne savez pas ce que vous voulez. Vous voulez être monté. Vous voulez vous monter dessus, mais vous êtes qu'un montage, de vous-même, qui se monte dessus, qui n'a vu que vous, qui est dessus, qui est dessous. Vous êtes n'importe où, mais vous n'êtes pas sur vous, vous n'êtes pas en vous, vous êtes qu'un montage, vous êtes monté dessus.
Premier acte de l'Opéra pour rien de Charles Penquin. Et au même moment, au même moment, au Portugal, sur Antena 1, un programme d'analyse des résultats aux élections européennes.
Saudação de António Costa, a todos os militantes do Partido Socialista, António Costa, que já
L'occasion pour nous d'interroger Lydia George au téléphone depuis Lisbonne. Bonsoir Lydia George. Vous êtes Lydia George grâce à une langue étonnante de force et de créativité, l'une des romancières les plus importantes au Portugal. Comment percevez-vous la présence du Portugal au sein de la communauté européenne de plus en plus élargie ce soir après ces résultats d'élection?
Il faut dire qu'au Portugal, il n'y a eu jamais une consultation publique directe sur la question européenne. Pourtant, j'ai le sentiment que l'adhésion, 18 ans avant, a été toujours perçue comme un pas très, très positif. D'abord parce que l'Europe signifiait pour nous une nouvelle intégration dans l'espace, dans un espace élargi. Après aussi parce que l'Europe signifiait aussi la possibilité d'une démocratisation de la société. Et surtout, l'Europe signifiait une aide matérielle indispensable visant le progrès et le développement. Mais toutes ces années passées, je crois qu'aujourd'hui, les bilans, c'est un bilan qui est très loin d'être accompli. On a l'idée qu'on a gaspillé le temps et aussi l'argent. Je dirais qu'aujourd'hui, le Portugal est sous anxiété et l'adhésion, des pays de l'Est et des pays baltiques, ils viennent souligner exactement ça, et l'idée qu'on a perdu une espèce de cycle et qu'on est au début de nouveau. Chaque semaine, il y a une entreprise qui vole, qui s'en va. Alors, je crois qu'aujourd'hui, le Portugal éprouve une espèce de sentiment âpre de défaite et une espèce d'idée qu'on est au début d'un cycle de nouveau.
Le Portugal aurait-il perdu la foi dans l'Europe, ce qui n'était pas le cas dans les années 90, je crois, où l'on connaissait une vraie ferveur européenne?
Je n'ai pas entendu, excusez-moi.
Est-ce que vous pensez que le Portugal peut préserver sa foi dans l'Europe, ce qui était le cas dans les années 90 et peut-être plus aujourd'hui, plus ce soir en tout cas?
Je crois que l'Europe sera capable de préserver une espèce d'identité. Ce sera peut-être possible. Mais c'est vrai que j'ai l'idée que du point de vue culturel, et surtout quand les écrivains se rassemblent et se parlent là-dessus, j'ai toujours l'idée qu'il y a une espèce de sentiment d'Europe, mais c'est un désir pâle d'Europe. Je crois que c'est difficile de dépasser des questions, par exemple, c'est difficile de dépasser des frontières antérieures. Plutôt que la question des langues, c'est la question des anciennes hégémonies qui reviennent, des anciennes blessures, aussi la question des partenaires hors de l'Europe. Vraiment, je crois qu'on passe facilement à une espèce d'utopie, que de la terre ronde, de la terre entière pour tout le monde, exactement parce que les gens de l'Europe ne sont pas capables de dépasser encore ces blessures et font une espèce de fuite vers un espace sans racines. Je dirais qu'il faut passer vraiment quelques décennies jusqu'au moment où un enfant puisse naître en Europe et on puisse écrire sur sa poitrine « enfant européen ».
Alors vous revenez, Lydia George, d'un colloque à la Maison de littérature Von Zee à Berlin, c'était hier et avant-hier. Ce colloque traitait, je crois, de la question de l'Europe culturelle. Pouvez-vous nous faire part des résultats de cette rencontre entre écrivains du monde entier?
Je dirais plutôt que, pas cette fois à Berlin, mais surtout quand on est nombreux. Quand on se rencontre, on est nombreux, par exemple, un an avant, à Hambourg, on s'est rencontrés, il y avait 34 écrivains. Et en général, on parle comment dire, on parle de quelque chose, on parle d'une espèce d'Europe dont l'âme est la même, dont il faut fuir les différences, tout ça. Mais en général, le résultat, c'est toujours comme ça, c'est qu'on est encore très éloigné, que où la question de l'Europe n'intéresse pas aux gens, ou par contre, l'Europe est ressentie comme encore une espèce de somme d'échantillons qu'il faut ajouter, mais avec des problèmes de voisinage et des problèmes d'oubli du passé.
D'ailleurs, ce soir, le scrutin aura été éclipsé à Lisbonne par le festival rock in Rio et surtout le championnat d'Europe de football. Les compatriotes de Lydia George ont choisi foot plutôt qu'Europe.
Hanno una netta impennata i Verdi, che sono alleati di Schröder.
Je regardais la télévision et je me dis, je ne vais pas dans le même pays que celui qui s'exprime. J'ai un
correspondant qui nous rejoint, some of his observations, but it's now moving towards 10 o'clock. You're listening Section Special on Radio 4.
L'Europe, les célébrations culturelles, qu'en pense Jean-Luc Godard qui, dans Notre Musique, son dernier film, construit depuis Sarajevo une certaine idée de l'Europe, justement. Quelques mots du maître, paroles assassines et poétiques, que nous avons rencontré il y a quelques jours au Fresnois, près de Lille. Jean-Luc Godard.
C'est comme sur la photo de... J'ai vu en arrivant Lille, capitale culturelle de l'Europe. Et je me souviens aussi qu'à l'époque, il y a 7-8 ans, Sarajevo avait été, un tout petit peu après les accords de Dayton, proposé comme capitale culturelle de l'Europe, et que l'Europe a refusé. Et il n'y a aucune ville qui s'est désistée pour Sarajevo. Et que là, je voyais leur affiche où on voit un petit bonhomme qui court avec des grosses bottes, donc je pense que c'est le petit Pousset. Mais je me demande où est l'ogre alors. Et est-ce qu'il court pour se jeter dans les bras de l'ogre ou est-ce qu'il court pour fuir l'ogre? Je ne sais pas. Et les cailloux, où sont-ils? Les cailloux, ils sont peut-être toujours dans la poche de Buñuel qui a la première représentation de l'âge d'or au studio des Ursulines, avait amené plein de cailloux dans sa poche et Desnos ou un autre lui a dit, écoute, c'est pas la peine de... comme ça, mais il lui a dit, mais non, c'est pour si les gens aiment le film.
Même moment, alors que Big Ben sonne 10 coups, il est minuit à Helsinki, 23h à Paris, ainsi qu'à Milan.
2018 hanno votato per l'Europa e anche per una tornata amministrativa. I laboristi vanno al 22%,
le travailliste
quindi
ont 22% in Angleterre, donc ils perdent 6 points. Mais les conservateurs aussi passent de 36 à 26%. Parce qu'en fait, en Grande-Bretagne, le vrai vainqueur est le parti indépendantiste britannique, c'est-à-dire les partis qui a fait de l'opposition à l'Union européenne son slogan et qui a obtenu 20% de suffrages.
Milan, où France Culture s'était délocalisée ces derniers jours et où nous retrouverons par téléphone Alex Fauty. Alex Fauty, bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir à toutes les précaires, tous les précaires de France, d'Italie et d'Europe.
Alors Alex Fauty, vous êtes activiste, hein, c'est ça. Vous tentez de rassembler des collectifs mobilisés autour de la question de la précarité à l'échelle européenne. Vous êtes d'ailleurs ce soir à la Pergola, un squat que vous occupez depuis 1989 à Milan. Comment percevez-vous le résultat des élections européennes en Italie ?
En fait, je vous écoute très mal parce qu'il y a une interférence d'une radio italienne. Mais en tout cas, nous, avec un 1er mai européen, on a cherché de rassembler tous les réseaux qui travaillent contre la précarité en Europe, en partant des intermittents, de sa précarité et des réseaux Mayday en Italie, notamment Chain Workers. Et on a amené 100 000 personnes cette année dans les avenues européennes. Aujourd'hui, on est content que la droite italienne a connu une défaite et je vous laisse la parole à ce moment pour pouvoir mieux vous écouter.
Au regard des résultats de ce soir, à ce stade de la soirée, pensez-vous qu'il s'agisse d'un vote sanction définitif contre Berlusconi ?
En fait, oui, on est en train, ici on est dans un centre social italien, un de plus important de Milan, ça s'appelle Pergola. On est à 30-40 en discutant les répercussions des élections européennes sur l'action sociale des mouvements.
Très bien. Quelle est votre analyse, vous, en tant que fédérateur des mouvements précaires par rapport à l'Europe ? Est-ce que l'Europe est un espoir pour sortir de la précarité ?
Alors, on parle beaucoup d'Europe sociale, mais en fait, on voit les droits minimaux qui existaient en train d'être détruits. Nous, on demande avec les intermittents, les mouvements espagnols d'officina précaria et des précarias à la deriva, une chose simple. Le modèle social européen doit se fonder sur la flexicurité. On peut être flexible, mais il ne faut pas être précaire. C'est simple, mais il faut repenser l'État-providence pour ça.
Est-ce que vous connaissez ailleurs que dans l'entité italienne, des fraternités? Est-ce que vous avez rejoint les mouvements de France, intermittents, espagnols, allemands? Est-ce que c'est un mouvement qui grandit pour vous au sein de la communauté européenne?
Maintenant, je ne peux plus écouter ta voix, parce qu'en fait, il y a une radio italienne qui me parle dans mon oreille,
ah, très bien.
Et je n'entends pas ta voix. Je crois quand même que, si j'ai bien compris ta question, c'est que comment on peut faire? Il faut fédérer les mouvements. Il faut fédérer les mouvements et c'est ça la société civile européenne qu'on peut construire. À partir des luttes des femmes, à partir des luttes des immigrés, à partir des conflits des jeunes précaires. Il n'y a pas une société européenne qui se bat pour les droits sociaux que seulement eux peuvent vraiment donner à la civilisation européenne un caractère démocratique et progressif. Je te laisse parce que je...
Oui, merci bien. Bonsoir, bonsoir Milan, et on est de tout cœur.
Que les élections en France soient aussi favorables qu'en Italie contre la droite néolibérale.
On est de tout cœur avec vous. À bientôt, Alex Fauty.
Paris AP, Les Européens ont été peu nombreux à se déplacer dimanche pour désigner leurs 732 représentants au Parlement. Mais ils ont pour la plupart profité de ce premier scrutin de l'Union à 25 pour sanctionner le pouvoir en place ou confirmer le désaveu exprimé dans de récents scrutins nationaux. La politique intérieure a en effet dominé la campagne, même si le dossier irakien, la future constitution européenne renforçant les pouvoirs du Parlement et la question de l'adhésion de la Turquie ont été abordés. En outre, plusieurs États membres, comme la Belgique, la Grande-Bretagne ou l'Italie, organisaient en même temps des élections locales.
Paris, 13 juin. Alain Lipietz, tête de liste des Verts en Ile-de-France, a estimé dimanche que le débat sur le mariage homosexuel a pu avoir des conséquences sur le résultat du Parti écologiste aux européennes que le député européen a accueilli avec déception. C'est une question qui, bien entendu, va se poser sur les marchés. On s'en prenait plein la figure avec cette histoire. C'est clair que ça a absorbé une très grande part de notre temps de communication qui n'est déjà pas très large. On aurait préféré que cela se passe à un autre moment, a-t-il déclaré sur LCI. Nous avons nous-mêmes décidé à la quasi-unanimité d'approuver le principe du mariage homosexuel, a toutefois souligné M. Lipietz, regrettant seulement la superposition des deux calendriers.
Accord libre-échange, des progrès pour les discussions entre UE et Mercosur. Par Claire de Oliveira. Sao Paulo, Brésil, 13 juin, AFP. Les négociateurs de l'Union européenne et du Mercosur, le marché commun sud-américain, ont estimé dimanche avoir fait des progrès dans leur pourparlers visant à signer un accord de libre-échange d'ici octobre, même si la dernière ligne droite n'est pas encore en vue. Nous avons obtenu des progrès sûrs pour les questions d'investissement et de tarifs douaniers industriels. On a un calendrier pour réduire ces tarifs, mais il reste beaucoup à faire en matière de services et il y a des difficultés pour les appels d'offres pour les marchés publics, a déclaré le commissaire européen au commerce Pascal Lamy à l'issue d'une réunion de 3h30.
Explorons l'éveil d'une Europe à naître jusqu'au bout de la nuit viennoise. Rappelez-vous, c'est dans Le troisième homme de Carol Reed, Orson Welles, alias Harry Lime, au pied de la roue du Prater de Vienne, tente de se faire roi dans un monde sans loi.
What fools we are talking to each other this way, as though I'd do anything to you. Or you to me. You're just a little mixed up about things in general. Nobody thinks in terms of human beings. Governments don't. Why should we? They talk about the people and the proletariat. I talk about the suckers and the mugs. It's the same thing. They have their 5-year plans. So have I.
You used to believe in God.
Well, I still do believe in God only. I believe in God and mercy and all that, but the dead are happier dead. They don't miss much here, poor devils.
Constitution. La présidence irlandaise ne propose pas de référence chrétienne. Bruxelles, 13 juin, AFP. La présidence irlandaise de l'Union européenne ne propose finalement pas de référence à la religion chrétienne dans le projet de constitution pour l'Union européenne, selon le document transmis dimanche aux 25 pour préparer les ultimes négociations sur le texte cette semaine. Aucun consensus ne semble se dessiner en faveur de l'insertion d'une référence expresse à l'héritage chrétien ou judéo-chrétien de l'Europe dans le préambule de la Constitution, explique la présidence dans ce document rendu public dimanche. L'Irlande était pourtant l'un des pays qui soutenait la référence à la religion chrétienne.
Prague, un mois et demi après son élargissement historique, l'Union européenne a largement boudé ses premières élections organisées sur tout le continent pour élire le Parlement européen, avec une abstention particulièrement massive dans l'ancienne Europe communiste.
Victoire de l'opposition de droite en Lettonie, résultat provisoire. Riga, 13 juin, AFP. Les partis de l'opposition de droite de Lettonie ont remporté dimanche les premières élections parlementaires européennes organisées dans ce pays selon des résultats provisoires quasi complets publiés par la commission électorale.
Paris 13 juin AFP, le Parti socialiste crédité d'environ 30% des voix a jugé dimanche que le président Jacques Chirac devait désormais prendre ses responsabilités après les élections européennes, sans cependant évoquer clairement la démission de Jean-Pierre Raffarin comme il l'avait fait avant le scrutin. Le ministre de l'Intérieur, Dominique de Villepin, a indiqué que le rapport gauche-droite est à peu près comparable à celui des élections régionales de mars, affirmant que la gauche en tête connaissait une progression autour de 43% par rapport au précédent scrutin européen grâce au bon score du PS. L'UMP, qui aurait recueilli environ 17% des suffrages, a prôné l'union entre la droite et le centre, tandis que François Bayrou, président de l'UDF, a confirmé la création d'un nouveau groupe au Parlement européen.
Et au même moment,
Paul Henley.
Indeed, we can't. MEPs who's been elected.
En Allemagne, la station H2R propose Crossover par Robert Klug. Cette soirée d'élection au Parlement européen, quel devenir la communauté des 25 peut se voir profiler? Quelles remarques et recommandations d'Edouard Glissant, poète, écrivain, originaire des Caraïbes et vivant actuellement à New York? Edouard Glissant.
Je ne crois pas que la question des langues soit une question fondamentale. Je crois qu'aujourd'hui, dans ce que j'appelle le tout monde, avoir des langues différentes, contrairement à ce qui se passait avant, ce n'est pas un motif, ce n'est pas une raison suffisante pour élever des barrières. Je crois que l'imaginaire des hommes, des femmes et des humanités d'aujourd'hui va au-delà de cette question de langue. Je ne crois pas qu'on puisse dire aujourd'hui « Dis-moi quelle langue tu parles, je te dirai qui tu es ». Parce qu'il y a beaucoup de pays où les enfants sont élevés en 3, 4 ou 5 langues, et contrairement à ce qu'on croit, ça ne pose pas de problème de traumatisme, de déséquilibre ou de problématique d'identité. Je ne crois pas à ça. Je crois qu'il y a, enfin pour moi, il y a 3 aspects de l'Europe qui font que l'Europe n'est pas encore une réalité assise, que c'est une réalité encore en mouvement, encore tremblante,
en gestation.
La première, c'est qu'il y a une ombre sur l'Europe. C'est qu'elle est constituée principalement d'anciennes capitales d'empires coloniaux, que ce soit l'Angleterre, la France, l'Allemagne ou la Belgique, ou le Portugal. Ce sont d'anciennes capitales d'empires coloniaux et qu'il y aurait peut-être une tendance de l'Europe, quand elle se fait, à capitaliser, à réunir tout ça, tous ces héritages d'une pensée de l'Empire, qui était l'Empire colonial, et à mettre tout ça ensemble. Et l'Europe peut vouloir se constituer comme une puissance dans le monde, et je ne crois pas que ce serait une bonne chose. La deuxième condition, c'est que je ne crois pas que l'Europe aura intérêt à être ni un sous-empire des États-Unis, ni un anti-empire des États-Unis. Il faudrait que l'Europe arrive à définir ses voies propres et la spécificité de sa propre existence, à la fois politique, culturelle, économique, sans avoir pour but ni de consacrer ni de combattre un éventuel empire des États-Unis. Et je crois que l'Europe devrait faire beaucoup attention à cela. Et le troisième aspect qui me paraît important et dont personne ne parle dans la constitution de l'Europe, c'est que aujourd'hui en Europe, il y a une résurgence extrêmement vivace, disons, de ce qu'on pourrait appeler des régions, qui, sans faire de régionalisme, rapprochent des réalités culturelles qui hier étaient complètement éteintes et qui aujourd'hui, par-dessus les frontières des nations, mais sans les nier en tant que nation, pourraient apporter à l'Europe une extrême diversité. Alors là, non seulement de langue, mais aussi de mœurs, de coutumes. Et je pense que le fait de l'île bretonne, l'île catalane, l'île occitane, l'île alsacienne, etc., l'île barbaroise, etc., tout ça constitue un archipel. Et que finalement, l'Europe, ce n'est pas un continent, c'est un archipel. De la Méditerranée à la Scandinavie, il y a là toute une réalité nouvelle qui est une réalité archipélique et que on ne prend pas conscience de cela. Et il me semble que c'est une des forces vives de l'Europe à l'heure actuelle.
Depuis ce matin, nous tous, Allemands, Belges, Français, Hollandais, Italiens et Luxembourgeois, devenons européens. Il n'y aura plus de charbon allemand ni d'acier français, mais du charbon et de l'acier européen circulant entre nos pays librement. À l'ouest et à l'est se développent dans de grands espaces de vastes productions modernes. Mais chez nous, en Europe, nous demeurions limités par nos frontières trop étroites. Pendant des siècles, dans notre Europe, les nationalismes se sont opposés. Les États ont cherché à établir leur domination au prix de rivalités sanglantes qui ont amené nos peuples au désastre. Et voilà que pour la première fois dans notre histoire, les barrières que les nations européennes avaient dressées entre nos peuples commencent à tomber et les peuples à s'unir.
Le PS a affirmé que ce scrutin était une nouvelle sanction tombée sur le parti au pouvoir après les cantonales et les régionales de mars. Dès lors, il faudra bien, et le plus tôt sera le mieux, que le président de la République prenne ses responsabilités. Il ne pourra pas toujours considérer le vote des Français, que le vote des Français est sans conséquence, a jugé François Hollande, premier secrétaire du PS, sans aller jusqu'à évoquer le départ du Premier ministre Jean-Pierre Raffarin.
Finlande, l'opposition conservatrice arrive en tête, résultat définitif. Stockholm, 13 juin, AFP. Le parti conservateur, KOK, droite, principale formation de l'opposition en Finlande, est arrivé en tête des élections européennes de dimanche avec 23,7% des voix, selon les résultats définitifs publiés par le ministère de l'Intérieur.
Le numéro 2 du PS, Laurent Fabius, a affirmé de son côté que la crédibilité de M. Raffarin est désormais voisine de zéro. Les socialistes avaient pourtant été plus loin la semaine dernière en mettant le sort du Premier ministre dans la balance.
Chypre, 4 sièges sur 6 pour les opposants au plan de l'ONU officiel. Nicosie, 13 juin, AFP. Les partis opposés au plan de réunification de l'île de Chypre présenté par les Nations Unies ont obtenu 4 des 6 sièges de députés européens dévolus à Chypre, où la participation a atteint 71,18% selon les résultats officiels annoncés dimanche soir à Nicosie. Le parti d'Izi, droite, partisan d'un oui au référendum du 24 avril sur ce plan présenté par le secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, est arrivé en tête avec 28,23% des voix, s'assurant 2 sièges de députés européens.
Et au même moment...
The results from the sièges. Just le fonctionnement. We're too happy about that because he can't be sure if he can't be sure of keeping the two.
Au même moment, en Grande-Bretagne, sur BBC 4, Caroline Quinn à Londres et Paul Henley à Bruxelles couvrent les résultats des élections au Parlement européen.
If there is a serious reduction in the SNP vote, then there are already people waiting in the wings ready to wield the knife.
Effectivement, on est prêt à filer les couteaux. Mais selon les chiffres qu'on a, ça n'a rien à voir avec le résultat de 99. Pour les Écossais aussi, les conservateurs ont eu un bon résultat. Mais je pense que John Swinney ne peut pas avoir de bons résultats pour son parti dans ces élections. Vous vous souvenez, dans les administratives en Angleterre, quel a été le résultat du Parti travailliste il y a 3 jours? Non, je ne crois pas que le SNP va avoir un gros bond en avant. Mais pour compléter le tableau, peut-être oui, on attendait d'être réduit à un seul siège.
Jamais je n'accepterai d'être moi-même, je n'accepterai pas, je ne peux pas accepter d'être moi-même dans ce terrain glissant. Il n'y a pas de terrain glissant, c'est moi qui suis dans le terrain glissant. Je suis avec moi-même et déjà moi-même, c'est déjà un terrain glissant. Alors qu'est-ce que je peux faire avec tous les autres qui sont dans le moi et dans le moi-même qui sont dans un terrain glissant. Tout ce petit monde, tout moi et mon petit monde qui est à moi, mon petit monde en moi. Et qu'est-ce que je peux lui dire à mon petit monde en moi? Je suis avec moi-même, avec mon petit monde en moi, et je tourne autour, et je tourne autour, et je tourne autour, et je tourne, et je tourne, et je tourne, et je tourne, et je tourne.
Dr. Hamas je vaš centar za izstavu javnog mnenja i množičnih komunikacija gdje.
Nous rejoignons maintenant Sarajevo avec le général Divjak. Général Divjak, bonsoir.
Bonsoir.
Général Divjak, vous avez assuré la défense de Sarajevo pendant la guerre de Bosnie, période où vous avez refusé de suivre les nationalistes serbes, car pour vous, Sarajevo symbolisait un humanisme et un art de vivre. Comment vit-on l'Europe, vous, selon vous, général Divjak, à Sarajevo aujourd'hui?
Mais j'ai pas bien entendu, il y a les autres voix qui parlent.
Oui, on va essayer de les couper. Comment vit-on l'Europe à Sarajevo? Est-ce que l'Europe a un sens pour les habitants de Sarajevo?
Mais à mon avis, ben, je peux vous dire, les citoyens de Sarajevo, de Bosnie, ne s'intéressent pas pour le scrutin des Européens. Pourquoi? Mais vous savez bien, nous sommes très très loin de l'Europe et je me demande souvent pourquoi ne sont pas acceptés comme les autres. C'est une petite discrimination pour nous en Bosnie-Herzégovine qui est pendant la guerre, et je pense que l'Europe est responsable de tout ce qui se passe en Bosnie-Herzégovine. Et si on parle un peu de l'Europe, je sens que l'Europe est trop technocrate, trop loin et impuissante à régler les problèmes, par exemple les problèmes sociaux, de la sûreté et des questions d'état civil. Je pense de tout ce qui se passe en Bosnie-Herzégovine. Par exemple, c'est toujours lié avec la situation, si on parle de lié avec la haie, pourquoi Karadzic et Mladic et les autres criminels de guerre sont encore en liberté. Voilà. Et de ce côté, je ne vois pas que le nouveau constitution européen peut changer quelque chose chez nous. Et je me demande aussi, je suis en train de suivre toutes les questions de la constitution européenne, je me demande pourquoi on dit pour ou contre l'adhésion de la Turquie, mais on n'a jamais parlé les dernières années pourquoi on a fait l'adhésion de la Bosnie-Herzégovine.
Vous pensez que l'avenir de la Bosnie-Herzégovine passe par l'Union européenne?
Mais c'est sûr, d'abord, il faut changer quelque chose chez nous. Je pense que d'abord, il faut changer la constitution. On ne peut pas vivre avec deux entités, avec trois économies, avec trois armées même. Si on dit aujourd'hui c'est un ministère de défense, mais quand même ce sont les représentants de trois peuples, serbes, croates, bosniaques. De l'autre côté, partenariat de la paix, nous sommes très très loin, mais c'est à cause des problèmes de Karadzic-Mladic, c'est-à-dire de la République Srpska. Mais je sais, je sens et je vois, c'est l'envie de la majorité en Bosnie-Herzégovine entrer en l'Europe unie. Acception à l'Europe unie sera sortie des problèmes où on se trouve aujourd'hui de la Bosnie-Herzégovine.
Alors, Général Divjak, vous êtes l'auteur d'un livre publié en France aux éditions Buchet-Chastel qui s'appelle « Sarajevo, mon amour ». Est-ce que vous serez prêt prochainement à écrire un livre qui pourrait s'intituler « Europe, mon amour » ?
Mais on demande toujours l'Europe à Bosnie-Herzégovine, on va expliquer, mais ben comment séparer? Nous sommes en Europe des milliers d'années, on peut dire ça. Ben, c'est la culture européenne chez nous. Ben, vous voyez, vous savez bien, cette année, c'est au mois de septembre, c'est la cinquième rencontre des écrivains européens. Voilà, les liés, les transmissions, les communications sont normales. Et pourquoi on demande toujours l'Europe Bosnie-Herzégovine? Et je sens, si j'aime Bosnie-Herzégovine, que je l'aime. Et je vous dis, si vous lisez mon livre, vous pouvez aimer Bosnie-Herzégovine, ça sera autant moi. Et bien, pourquoi on n'a pas aimé l'Europe? J'ai appris beaucoup à l'Europe, mais l'Europe n'a pas appris beaucoup de la Bosnie-Herzégovine.
Merci, Général Divjak, pour votre témoignage depuis Sarajevo.
Demain va s'ouvrir officiellement la campagne du référendum. Je voudrais ce soir, rapidement, simplement, vous parler de la construction européenne, de ses conséquences pour notre pays, vous dire pourquoi je vous consulte directement. Et pourquoi il faut que le oui recueille une imposante majorité.
Et au même moment,
Get them.
And I think a lot of
people.
Why are you asking again?
You mean in the referendums to exactly. To facilitate the referendum?
Au même moment, en Slovénie, sur la première chaîne de radio, il est également question de traiter les résultats des élections en principe. Quittons cet intermède musical slovène pour nous retrouver dans un autre endroit, car au même moment...
I live in a world of, let's say, cities.
Je vis dans un monde de villes, pas de pays.
And a different organization than, let's say, political.
Et dans une organisation autre que politique.
I think there's a very...
Laurie Anderson a également répondu à nos questions sur cette question de l'Europe. Je vous propose de l'écouter.
I live in a world of, let's say, cities.
Je vis dans un monde de villes, pas de pays.
And a different organization than, let's say, political.
Et dans une organisation autre que politique.
I think there's a very... There's another world.
Je pense qu'il y a un autre monde qui est caché derrière le monde politique. Et c'est le monde de la culture.
For example, let's say I do a concert. It's
par exemple, disons que je fais un concert.
I don't think of it especially.
Je ne me dis pas que ce sera en Allemagne ou au Brésil.
You know, Brazil. I think it's going to be in.
Je me dis, ce sera à Saint-Paul ou ce sera à Berlin.
These are the ways that I think of the world.
C'est dans ces termes-là que je vois le monde.
It's funny, you know, I. Let's take Berlin for example. I find that
prenons
the audiences
Berlin,
there
par exemple.
Are more similar. They have a lot to do with the audiences in San Francisco.
Je trouve que le public là-bas ressemble beaucoup à celui de San Francisco.
There are lots of like kind of techie,
ils sont très high-tech. On dirait qu'ils ont des fils dans la tête. Ils ont les mêmes centres d'intérêt, le même regard un peu sophistiqué sur les choses. Pour moi, ils sont très proches.
Slither around, move around in and out of different scenes.
Je circule, je me déplace beaucoup d'une scène à l'autre.
It's partly because I don't really belong to any one.
C'est lié au fait que je n'appartiens pas totalement à un domaine particulier. Le monde des arts plastiques, le monde de l'opéra, le monde de la danse contemporaine.
Misfit.
Je suis toujours un peu entre deux, un peu désaxé.
I like to try to sneak.
J'aime bien essayer de me faufiler d'un endroit à l'autre.
I prefer to think in terms of cities. I really do, just because I don't have this.
Je préfère penser en termes de ville,
picture,
vraiment.
Should, of, like,
simplement parce que je n'ai pas une vision d'ensemble de qui est qui. Peut-être que je devrais, mais à chaque fois que j'essaie d'avoir une vision d'ensemble, ça se brouille.
I mean, I live in New York City.
Je vis à New York.
And when anybody asks me where
et quand
you
on
from,
me demande
I never
où
say
je viens,
United States.
Je ne dis jamais que je viens des États-Unis.
Of course, that's, there are many
bien sûr, en ce moment, j'ai
moment.
Plein de raisons de ne
but
pas le dire.
I say New York
et je dis New York.
I feel like I live in, across the river from the United States.
Parce que j'ai l'impression de vivre de l'autre côté de la rivière par rapport aux États-Unis.
So I think it's important now for especially artists to begin not to think so.
Je pense qu'il est important pour les artistes de ne plus penser de façon nationaliste.
That we could be the ones to begin to think of how to create another,
si nous pouvions être ceux qui réfléchissent à créer une autre façon de communiquer à travers les images et la musique et pas à travers la politique.
I know that sounds like a kind of naive and it's a little bit of a cliché, but still I really do think that.
Je sais que ça a l'air naïf et un peu cliché. Mais j'y crois vraiment.
Europe is an enormous place. You know, there's
par exemple, l'Europe est immense, avec tellement de variations. C'est difficile de dire ce que la culture norvégienne a à voir avec Palerme.
Not a lot, you
pas grand-chose.
We're not such a big place in the United States, but still, what
les États-Unis, ce n'est pas si grand, mais quand même. Qu'est-ce que Chicago a à voir avec Dallas? Là encore, pas grand-chose. Le monde est très grand. Et comme tout s'uniformise si vite, il est important de cultiver la variété des propositions et de préserver les différences. C'est ça qui est important, la diversité des parfums. Pas le fait que tout se mélange et se standardise.
Cette vision de l'Europe était celle de l'artiste américaine Laurie Anderson, compositeur qui expérimente à travers les technologies, au micro de Marina Babakoff.
Jean-François Poppé, il ne faut pas mélanger tous les scrutins. Paris, 13 juin 2004, AFP. Le porte-parole du gouvernement, Jean-François Copé, a appelé dimanche sur LCI à ne pas mélanger tous les scrutins en réagissant aux premières estimations des résultats aux élections européennes.
Lisbonne. Le capitaine de la sélection anglaise, David Beckham, a rendu hommage au gardien français Fabien Barthez à l'issue de la victoire de l'équipe de France 2-1 contre l'Angleterre dimanche soir à Lisbonne dans le cadre de l'Euro 2004.
Il n'y a rien de pire que de considérer chaque élection intermédiaire comme une élection remettant en cause la politique que nous conduisons sur 5 ans, a déclaré M. Copé. À ce jeu-là, on fait de la démocratie au rabais, a-t-il ajouté.
Je n'aurais pas pu mieux le tirer, a déclaré Beckham. Mais il a lu en moi, bien joué Fabien, fair play to Fabien, a-t-il ajouté. Si nous avions mené 2-0, le match aurait sans doute été terminé.
Notre objectif à nous, c'est le rendez-vous de 2007. C'est là que nous mettrons en perspective notre bilan et notre projet. Peut-être pourrons-nous alors comparer les uns et les autres, a poursuivi le porte-parole du gouvernement. Contester est une chose, proposer en est une autre, a-t-il affirmé à l'adresse du PS.
À la 72e minute, Barthez a en effet stoppé un pénalty du joueur anglais, un geste qui a relancé les Bleus, alors menés 0-1 par les Anglais, depuis la 38e minute et le but de Frank Lampard.
La réforme de l'assurance maladie, la modernisation de l'appareil industriel, notre politique en matière de sécurité, comme les grandes réformes que vous n'avez pas voulu faire sur les retraites et sur la réforme de l'État, a-t-il poursuivi ?
Européens, ne restez pas assis, restez devant vous, ne restez pas avec vous, restez européens, ne restez pas, restez avec vous-même, vous n'êtes plus rien, vous êtes des européens, restez européens, car vous n'êtes déjà plus rien, vous ne savez pas ce que vous voulez faire, européens, restez avec vous, restez européens, vous ne savez pas pourquoi vous voulez rester, mais vous voulez rester, vous ne savez pas pourquoi vous allez rester, européens, vous savez pourquoi vous voulez rester, européens, mais moi je ne sais pas ce que je vais rester, rester, je vais rester avec les européens. C'est pour ça, parce que je suis 10 fois plus rien, je suis européen, je suis 10 fois plus rien, voilà ce que je suis européen, je vais être européen, ou je vais continuer à être plus rien, il faut choisir, à un moment donné, il faut choisir de déguerpir, ou de rester, et de rester, c'est d'être avec soi-même, c'est-à-dire d'être européen.
Et au même moment... Au même moment, en Slovénie, sur la première chaîne de radio, il est question également de traiter les résultats des élections.
Le président du Parlement européen, interviewé par la radio slovène, répond que c'est une situation particulière à un pays qui vient d'entrer dans le Parlement européen. Il faut trouver un cadre qui mettra en avant des élections en Europe, alors que les résultats d'aujourd'hui disent tout Les commentaires de M. Cox sont que le Parti populaire deviendrait le parti le plus fort dans le Parlement européen. Les résultats sont en accord avec les attentes générales. Le Parti populaire européen demeure le groupe le plus fort. Le Parlement européen demeure un parlement des minorités, puisque aucun parti n'aura la majorité. Le troisième groupe, ce sont les partis libéraux qui ont renforcé leur position relative. La première réunion aura lieu le 20 juillet à Strasbourg, et avant, il y aura bien négociation. Quant à la participation aux élections, Pat Cox a fait le commentaire à notre correspondante de Bruxelles. La participation, surtout dans les nouveaux États membres de l'Union, je suis plutôt déçu. Je n'étais appelé à participer aux élections, pas pour certains partis. J'ai l'impression que les gens avaient l'impression qu'ils s'étaient prononcés pour le Parlement européen, rien qu'en disant oui au référendum pour l'Europe. Il faut continuer à donner de la voix pour assurer son influence. Nous sommes avec Mme Meta Dragolic de Bruxelles. Quoi de neuf à Bruxelles? On n'arrive pas à établir le lien avec Bruxelles. Problème de téléphone. Nous allons les rappeler. Attendons qu'on établisse la connexion avec Bruxelles. En attendant, je vous informe que c'est Mme Spela Novak qui avait résumé l'entretien avec le président Peter Cox.
Dominique González-Forster, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, quelques petites questions à chaud en ce soir des résultats aux élections européennes. De par les consonances de votre nom et de par le travail de création tant visuelle que plastique que vous menez à travers le monde, quelle idée vous vous faites, Dominique González-Forster, de l'Europe?
Moi, c'est vrai que je suis née européenne, puisque bon, je suis née à Strasbourg, mais ma mère est allemande. Mon père est à moitié français, à moitié espagnol. Et c'est vrai que dans ma manière de travailler, on trouve plein de langues différentes. Et puis, on trouve plein de villes, donc pas seulement européennes, des villes asiatiques, des villes d'Amérique du Sud. Et je crois que c'est plus que l'Europe, quoi. C'est un espèce de sentiment transnational. Je crois que je suis pas bloquée sur l'Europe. Moi, je vois de toute façon toujours des villes avant de voir des pays.
Et c'est-à-dire que la condition aujourd'hui d'un artiste contemporain, c'est de vivre plutôt dans le monde que dans une région en particulier, et l'Europe notamment.
Ah, moi, je voudrais jamais généraliser. Je pense de toute façon, le voyage pour l'artiste, ça remonte à... C'est aussi ancien que la notion d'artiste. Je suis sûre que même les artistes préhistoriques, ils allaient d'un site à l'autre. C'est une condition contemporaine, mais je dirais pas que c'est spécifique aux artistes. Et je dirais que les artistes ont toujours voyagé, quoi.
Alors, quand on parle d'Europe à l'échelle mondiale, il y a un choc qui se crée, c'est le rapport à l'Amérique du Nord et la puissance américaine. On a l'impression que le terreau culturel commun en Europe, c'est la culture américaine, justement. Les Européens ne connaissent pas la culture de leurs voisins, mais par contre sont immergés au quotidien dans la culture américaine. Alors, je sais que vous avez un rapport assez singulier vis-à-vis de l'Amérique. Quelle est votre position face à ce paradoxe?
Ouais, j'ai effectivement un rapport un peu complexe. C'est vrai que moi aussi, je suis imbibée de culture américaine, dans le sens certains de mes écrivains préférés, de ma musique préférée, de mes films préférés, si j'y pense, sont américains. Certains de mes paysages préférés aussi. Et ce qui est drôle quand on voyage aux États-Unis et qu'on dit on est en fait quand on dit d'où on vient, on dit « Ah, Europe », ça veut dire en fait, beaucoup aux États-Unis ne font pas la différence entre les différents pays, les différentes villes. Ils ont déjà, avant même les Européens, une notion comme ça d'un territoire, un peu d'un espèce de miroir lointain qui est l'Europe. J'avais jamais imaginé qu'en fait, cette culture américaine, depuis 44-45, pouvait représenter comme ça un espèce de bain commun en même temps. Je crois que c'est en train, enfin, c'est quelque chose qu'on a vu dans l'art contemporain depuis le début des années 90, où l'axe Berlin-New York s'est complètement ouvert à d'autres villes. On voit maintenant beaucoup plus d'artistes d'Amérique latine, africains, asiatiques. Et je pense que cette espèce de bain américain est quand même en train de se... Comment dire tout à fait... je ne sais pas si ça sera pareil pour la prochaine génération.
Parfait. Merci beaucoup, Dominique Gonzalez-Forster, et à bientôt. Bonne nuit, en tout cas.
Merci. Bonsoir.
Strasbourg, 13 juin, AFP. Quelques 500 invités, pour la plupart venus d'Alsace et du Bade-Wurtemberg, le Land, situé de l'autre côté du Rhin, ont assisté dimanche à une soirée électorale aux allures de réunion entre amis, organisée au siège du Parlement européen à Strasbourg.
Paris, 13 juin, les Verts, dépourvus de leaders charismatiques pour leur campagne, n'ont pas obtenu le score à deux chiffres dont ils rêvaient, victimes d'une faible participation et du vote sanction contre le gouvernement Raffarin, qui a largement favorisé le Parti socialiste.
La plupart des convives s'efforçaient de glaner quelques images du match France-Angleterre sur le grand écran ou sur l'un des 25 petits écrans installés autour de l'hémicycle, en principe pour retransmettre les résultats de chacun des 25 pays de l'Union européenne.
En 1999, les Verts avaient obtenu 9,7% des voix à l'issue d'une campagne menée par Danny Cohn-Bendit, ce qui leur avait donné 9 élus au Parlement européen. Avec autour de 7% des voix, ils devraient cette fois-ci avoir de 4 à 6 élus.
Malgré une participation faible, ce n'est pas un désaveu de l'Europe, a estimé Madame Claudie Aigneret, la ministre française déléguée aux affaires européennes, seule ministre européenne qui avait fait le déplacement.
Par ailleurs, M. Cohn-Bendit avait choisi de mener campagne en Allemagne et leur campagne en France a été faite région par région sans personnalité unificatrice. Notre star nous a manqué, remarquait dimanche soir un élu vert.
Des réceptions avaient été organisées par Joseph Daul, tête de liste UMP, parti de Jacques Chirac, du Grand Est, et par son homologue du Bade-Wurtemberg, Karl von Vogau, CDU chrétien-démocrate, qui ne cachait pas sa joie après la déroute du Parti social-démocrate du chancelier Gerhard Schröder. « Je m'attendais à un recul, mais c'est une débandade », a-t-il dit.
Demain va s'ouvrir officiellement la campagne du référendum. Je voudrais ce soir, rapidement, simplement, vous parler de la construction européenne, de ses conséquences pour notre pays, vous dire pourquoi je vous consulte directement et pourquoi il faut que le oui recueille une imposante majorité.
Jamais, jamais, je n'accepterai d'être
Et au même moment, sur France Culture, c'est l'heure de l'ACR, l'atelier de création radiophonique. C'est le silence du studio 105 de la Maison de Radio France.
plus large, procurando garantir mais justiça social. Mesmo quando é difícil, sobretudo quando é difícil. Nossa capacidade como país é grande, temos a responsabilidade que eles têm com o
país. Se acaso dolce na podlagi
figa di forte
domace
Well, we'll follow that up when we can, but we're going down to Jane Draper and Poole just to see what's happening in the southwest. Jane?
Jane, good evening. Still waiting for a declaration. The full council there is still waiting to file their results, so we're making sure that we're taking them all the way for the final declaration. Results seem to show that the Conservatives are holding up, but UKIP are probably continuing to some of the Conservative votes will be keen to overrule their very strong in those areas.
Risollevate i morti.
Raise the dead.
How do you feel John Redwood is
Nekateri se podalo v mesti, če zanimam se vedete osvojene volitve, kaj je tam okoli eni, dve?
Verjetno, ja. ...europejene, de première estimation, atribuera a son parti Forza Italia une force située entre 20,5% et 23,5%. Ce pourcentage est inférieur aux 25 et davantage...
...européenne, victoire de l'opposition de centre-droit en Slovénie officielle. Elle jubile Jana, 13 juin, AFP, les partis de centre-droit opposition remportent
La coalition de centre-droit semble avoir fait l'unité des dégâts dans son ensemble. Le sondage la situant dans une
exceptionnelle montée
de
véridique.
Le sondage a été réalisé par la CNN pour la chaîne de
If and when it meanders its way to the House of Commons, and the party which will offer a sensible alternative in the general election, I found it a very irrespective electorate out there.
The Democratic Party has lost the terrain lors des élections européennes de dimanche, avec 24,7% des voix, tandis que la liste de juin souverainiste a fait une percée inattendue avec 14,4% selon les résultats définitifs publiés par les autorités électorales. La formation du Premier ministre, Goerad Persson, a perdu 1,2 points par rapport aux élections européennes de 1989,
qui avaient déjà été mauvaises. Because she was a good negotiator, and we have many things we can say to
her.
Les 14,4% de la liste de juin sont la grande surprise du jour. Les sondages publiés cette semaine avaient
fait 4,6 à 5,2% pour les souverainistes. Obtenant 28,87% des voix selon des résultats partiels pour sur 30% des bureaux de vote, a annoncé l'Office des statistiques CSU.
Et de droite qui partagent avec les partis d'extrême-gauche, verts et ex-communistes, une vision très critique de l'Union européenne et de ses institutions, mais rejette les autres grandes lignes des programmes de ces partis. Le Parti démocrate civique, ODS, droite eurosceptique, est arrivé largement en tête des élections européennes de vendredi et samedi en République tchèque en obtenant 28,5% des votes.
C'était l'atelier de création radiophonique L'Europe a des oreilles.
Un programme exceptionnel en direct du studio 105 de la Maison de la Radio et en multiplex avec 7 radios européennes par Philippe Langlois
et Frank Smith.
Avec la participation de Peter Greenaway, cinéaste, Angleterre, Édouard Glissant, écrivain, France, États-Unis, Jean-Luc Godard, cinéaste, Suisse, et Laurie Anderson, artiste multimédia, États-Unis.
Avec les interventions en direct de Lydia Georges, écrivain depuis Lisbonne, Alex Foti, activiste depuis Milan, le général Diviak depuis Sarajevo et Dominique González-Forster, artiste depuis Paris.
Avec les traductions simultanées de Federica Gianficconi pour l'anglais et l'italien, de Kimmo Pasanen pour le finnois, et Alexandre Kos pour le slovène.
Avec les voix de Sarah Riggs et de Omar Berada.
Les dépêches de l'AFP étaient dites en direct par Eva Truffaut et Claude Pieplu.
Avec des extraits de l'Opéra pour rien de Charles Penquin et des Plunderphonics de Dinah Bird.
Avec des statements de l'artiste anglais Douglas Gordon, programmation et conception de La Roue Sonore, Puce Muse, Serge Delobier et Renan Le Boïté.
Remerciements à Marie-Lucie de Valence et Michel Torrent, Bruno Roncière, Philippe Bouillette, Mireille Gauthier pour la préparation technique de cette émission. Remerciements également à Christian Maillard, Dominique Millet et Fabienne Favereau aux relations internationales de Radio France.
Remerciements aux relations internationales de la RTBF, la première en Belgique, de la RAI 1 en Italie, de la radio A1 en Slovénie, de HR2 en Allemagne, de la radio 1 au Portugal et de Radio Suomi en Finlande. Remerciements également à Marina Babakoff et Gilles Mardi-Rossian.
Équipe de réalisation, Thierry Guffroy, Jean-Michel Bernot, Lionel Quentin, Bruno Mourlan, Emmanuel Couturier, Céline Lachecard, Philippe Langlois et Frank Smith.
Voilà, c'est tout, c'est fini, mais rassurez-vous, c'est l'horizon de la nuit qui commence. Bye bye. Bye.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 13 juin 2004.